Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Vous savez, c'est facile quand, de début au milieu, il y a eu la conduite du Seigneur. Ce que j'ai préparé, ce que le Seigneur m'a aidé à préparer, ça a été introduit par Jean-Marc, ça a été confirmé par une prière prophétique, introduit par Michel, et confirmé par une prière prophétique de Jean-Marc. Alors merci Seigneur pour ces moments où on va partager la pensée du Saint-Esprit. Que ce qui est du Saint-Esprit aille dans vos cœurs, que ce qui est de l'humain s'envole. Amen. Eh bien, depuis quelques mois, le Seigneur nous encourage. Il nous exhorte à grandir tous ensemble, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Mais aussi individuellement. Et c'est même par là qu'il faut commencer. Je crois que le Seigneur appelle son Église à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Il a de nouveaux dons à accorder à plusieurs en vue de notre perfectionnement. Le Seigneur nous a déjà parlé par plusieurs messages au cours de ces derniers mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message « S'attacher au Seigneur ». Rappelez-vous l'image des moules qui sécrètent du byssus pour s'attacher fortement au rocher. Puis il y a eu une exhortation à se sanctifier. Ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification, notre mise à part. Vous serez saints car je suis saint. Et encore, dernièrement, un encouragement très fort à découvrir toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Alors le Seigneur m'a mis à cœur depuis plusieurs semaines de vous montrer une voie à suivre. Ce n'est pas la seule, c'est une. Et d'abord une question. Quels sont les engagements que le Seigneur nous demande pour qu'il puisse réaliser son projet de gloire pour son Église ? Ici, à Quévin. C'est évident que nous avons notre part à faire, aussi bien individuellement qu'en Église. Nous sommes tous appelés à grandir jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ, à l'état d'adulte. C'est un projet qui prend toute la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, grâce au concours et au support des divers ministères et des divers services, et le Seigneur va les multiplier, ces services, nous les mettons au service les uns des autres. Et alors nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que le statut d'adulte en Christ ? Ça peut être résumé ainsi, unité de la foi, et connaissance de Dieu. Alors, unité de la foi, pour faire court, c'est être capable de garder la communion fraternelle et la relation avec des frères et sœurs en Christ qui ne partagent pas exactement les mêmes opinions ou les mêmes manières de faire. Ici, il n'est pas question des fondements de la foi, mais de ces divergences d'opinions ou de pratiques qui empoisonnent parfois les églises et vont jusqu'à provoquer des divisions. Un adulte en Christ est capable de discerner ce qui est négociable de ce qui ne peut pas l'être et de faire tout pour garder l'unité de l'esprit, que ce soit en Église, que ce soit avec les autres Églises et les autres membres du corps de Christ. Le Seigneur souhaite une unité. L'autre dimension, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est ce qui fera l'objet de cette méditation. Qu'est-ce que la connaissance de Christ ? Je vous lis Colossiens 3:10. Vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Un petit peu de sémantique avec le mot « connaissance », qu'est-ce que c'est ? Le premier sens, c'est savoir, la connaissance intellectuelle suite à une étude approfondie d'un sujet ou d'un apprentissage. Ça vient avec la pratique. Le deuxième sens, connaissance, c'est la relation sociale. On connaît de vue, on connaît par oui-dire, on connaît intimement, on fait connaissance, on connaît plein de gens, des hommes politiques, des sportifs, des philosophes, des écrivains. On les connaît, mais eux, ils ne nous connaissent pas. Alors ça, ce n'est pas la vraie connaissance. Paul dit aux Corinthiens, « Si nous avons connu Christ selon la chair, ce qui veut dire en tant qu'humain, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc, il y a une autre connaissance, une connaissance selon l'esprit. C'est une connaissance absolue, produit d'une révélation et d'une relation. Alors, ouvrons nos Bibles dans la deuxième épître de Pierre, verset 1er. Je vous lis les premiers versets de cette deuxième épître de Pierre. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. On va s'arrêter là. Pour le moment, on reprendra après. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Première constatation, si vous voulez multiplier la grâce et la paix dans votre vie, vous devez connaître Dieu et Jésus-Christ de mieux en mieux. Vous devez avoir une connaissance précise de Dieu et de Jésus-Christ, et cette connaissance parfaite, on l'acquiert par la révélation et la méditation. La connaissance, cette connaissance de Dieu, elle vient, elle grandit avec deux ailes, la révélation et la méditation. Si on n'a qu'une aile, on tourne en rond. La méditation, c'est notre effort personnel pour s'approprier la parole, la laisser pénétrer en nous, la mémoriser. Cette parole que le Saint-Esprit va prendre dans notre mémoire lorsque nous en avons besoin pour nous rappeler les promesses et qui nous sommes en Christ. Alors nous pourrons citer par cœur la parole de Dieu dans des moments difficiles comme Jésus l'a fait dans le désert lorsqu'il était tenté par le diable. Ou alors on trouvera dans nos Bibles un verset, un texte qui va nous redonner des forces lorsque nous traversons des temps difficiles ou que nous avons des décisions importantes à prendre. La parole de Dieu est notre réconfort. C'est la source de notre victoire par la foi. Voilà le résumé. Nous apprenons à connaître Dieu et Jésus-Christ en lisant et en écoutant la parole de Dieu. C'est dans cette parole, la parole de Dieu, que nous découvrons qui est Dieu. On va faire un petit interrogatoire. Vous savez, j'ai été monitrice des enfants pendant plus de 40 ans. J'ai des petits restes. Hein. J'aimais beaucoup les faire participer. Alors, on va faire un petit interrogatoire. Quels sont les attributs de Dieu? Son portrait moral, ses vertus, ses qualités? Vous allez répondre, hein, vous levez la main, vous dites, qu'est-ce que vous pouvez dire de Dieu? Je voudrais dire que les mamans de mères en prière, elles sont favorisées. Parce qu'à chaque début, on parle d'un attribut de Dieu et on lue Dieu pour cet attribut. Alors maintenant, allez-y, comment est Dieu pour vous?
Saint.
Oh oui, tout à fait. Fidèle. Amour. Puissant. Allez-y, comment? Parfait. Qu'est-ce qu'il a encore?
Omnipotent.
Omniscient. Allez, comment ?
Omniprésent.
Patient, oui. Consolateur. Oui, protecteur. Allez. Bienveillant, miséricordieux. Oui, miséricordieux. Pardon ? Charitable. Comment ? Généreux. Ben, non, vous en avez. Bon, moi, j'ai noté, il est amour, il est bon, il est miséricordieux, compatissant. Il est un rocher, une forteresse, un appui. Il est la source de la vie. Il est jaloux. Il est sauveur. Il ne supporte pas le mal. Il est juste. C'est lui qui pourvoit. C'est celui qui pardonne. Je pense qu'on pourrait encore continuer, mais on va s'arrêter. Et cette connaissance de Dieu, elle peut rester au niveau de notre intelligence, dans notre intellect. On peut savoir. On peut avoir une grosse tête. Mais elle doit devenir une expérience. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est fidèle. Goûtez et voyez comment Dieu pardonne. Goûtez et voyez comment, et ainsi de suite, vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous avez donnés. Goûtez et voyez. Cette connaissance est d'un autre niveau. C'est la connaissance relationnelle. Par l'intimité, l'adoration, lors de tant de qualités que l'on passe dans la présence du Seigneur, on découvre les qualités de Dieu et on les expérimente. C'est un moment privilégié où le temps ne compte plus. C'est important que nous investissions, que nous nous investissions dans notre relation avec le Seigneur et que nous prenions le temps de cultiver notre intimité avec lui. C'est le Saint-Esprit qui déclenche l'intimité avec Jésus. Dire au Seigneur, dans ces moments mis à part, « Je suis là pour toi ». Pour me laisser remplir de ton amour, de ta présence bienveillante. La grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de sa parole. Et vous remarquerez, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? J'ai la bouche un peu sèche, merci. Excusez-moi. La grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance et vous remarquerez qu'il n'est pas question d'ajouter, mais de multiplier. Le Seigneur est celui qui multiplie. On verra à la fin que nous, on a des choses à ajouter. Mais la multiplication, elle appartient au Seigneur. C'est tous les jours que le Seigneur veut nous rencontrer, passer un temps de qualité avec nous. Et ainsi, nous grandissons dans sa connaissance. Dieu est vrai. Veut vraiment qu'on le connaisse intimement. Merci beaucoup. Grâce et paix sont donc multipliées. Mais qu'est-ce que la grâce ? Le sens premier, littéralement du mot grâce, c'est ce qui brille, ce qui réjouit. Et dans la Bible, elle a le sens de faveur imméritée de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. La grâce se manifeste par sa générosité qui accorde ses dons, ses bénédictions, son salut, sans que l'on ait à les payer ou à les mériter. La grâce, c'est la faveur de Dieu sur nos vies, dans tous les domaines spirituels, physiques, matériel, relationnel. Et en retour, que faisons-nous ? Nous rendons grâce. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui est l'auteur de tous ces dons parfaits qui descendent du ciel. Tout ce qui est bon dans nos vies est un effet de sa grâce. Nous devons cultiver la gratitude. Et c'est magnifique que Pascal soit venu rendre témoignage. Bon, décidément. La paix est aussi multipliée. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu nous a déclarés justes sur la base de notre foi en Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Une fois en paix avec Dieu, cette paix nous accompagne dans tous les domaines de nos vies. Dans les épreuves, les difficultés, les persécutions. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. Elle grandit avec la connaissance de la fidélité de notre Père. On peut lui confier nos soucis, nos fardeaux. Déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Comment être anxieux quand on a un Père qui prépare chaque journée ? Ne vous inquiétez de rien. Demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, dit Jésus. Alors pourquoi s'inquiéter ? Ça vous ronge l'inquiétude. Hein ? Restez en paix. Votre Père sait. La paix, c'est aussi l'harmonie, la sécurité, se sentir bien. Quand j'étais petite, c'est très important que les enfants connaissent la parole de Dieu. Quand j'étais petite, j'avais un verset que j'aimais beaucoup dire avant de dormir. C'était « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors la demeure, ça peut être la maison, mais ça peut être aussi son être intérieur. Et on a toujours des petits appréhensions, le monstre, le dragon, des trucs qui vont venir dans le noir. Ça vient dans notre imagination et ça devient très, très réel. Alors, j'avais ce verset qui m'apaisait, après tout, même si un dragon, on ne sait jamais, venait, le Seigneur me garde. Mais c'était un raisonnement de petite fille, hein, je vous rassure. Voilà. Mais c'est important que les enfants connaissent la parole de Dieu parce qu'on peut commencer à faire des expériences étant petit. Et ça vous marque pour la vie. La grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance. Et cette connaissance, nous la recherchons par tous les moyens. Nous devons la rechercher par tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. La Bible, d'une part, en méditant sa parole, et d'autre part, en cultivant l'intimité, les cœurs à cœur avec lui. Dieu révèle ses secrets à ses adorateurs, à ceux qui prennent du temps avec lui. Quand on est de nouveau, quand on devient un chrétien, qu'on est un tout jeune chrétien, on n'a pas la science infuse. La connaissance se développe au fur et à mesure de notre maturité spirituelle. La volonté de Dieu, c'est qu'on le connaisse de mieux en mieux. Et plus la connaissance intime de Dieu augmente, plus sa grâce et sa paix augmentent. Plus il déverse en nous son esprit. Ben vous savez, Dieu, c'est une personne. Jésus est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Comme entre époux ou entre amis intimes, on recherche à mettre à part des moments d'intimité. Il en est de même avec le Seigneur. Il nous attend dans le lieu secret. Mais ça ne s'arrête pas là. Par la connaissance, Dieu nous donne tout ce qui nous est nécessaire à la vie et à la piété. Tout. Tout, c'est tout. Il ne nous manque rien. Dieu met tous les moyens à notre disposition par sa puissance. Tous ces moyens, tous les moyens qu'il peut, il nous les a donnés. Pour notre progrès spirituel, pour notre marche avec lui, pour avoir de l'endurance, de la persévérance. Dieu a de l'ambition pour nous. Il veut pour nous le meilleur. C'est lui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Gloire, vertu. En deux mots, tout est dit sur la nature de Dieu. La gloire de Dieu est la manifestation visible de son intervention parmi les hommes pour sauver ceux qui croient ou pour juger ceux qui refusent de croire. Et vertu, vertu, ce mot est rare dans le Nouveau Testament. Il est 5 fois, dont 4 sous la plume de Pierre. Et ce mot traduit par vertu, il exprime l'excellence sous toutes ses formes, la grandeur morale. Et c'est par la manifestation de sa gloire et de sa vertu qu'il nous a appelés. C'est un appel grandiose, l'appel du roi de l'univers. Il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses par sa gloire et par sa vertu. Et la manifestation visible de sa gloire et de sa vertu, nous les voyons au travers de la vie de Jésus. Jean 1,14, La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus est la personnification de la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut nous donner en Jésus a une valeur inestimable. Les promesses révèlent le cœur même du Père. Sa gloire et sa vertu s'expriment dans ses promesses. Elles sont grandes et précieuses, nous dit Pierre. Si le sens de gloire et vertu nous dépasse, chercher à connaître et découvrir ses promesses nous feront rencontrer l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions. Ne vous privez d'aucune de ses promesses, elles sont innombrables. Elles aussi, elles répondent à tous les besoins de la vie humaine et spirituelle. Elles nous accompagnent dans toutes les situations que nous traversons, les joies, les peines, les persécutions, les épreuves. Les promesses, elles peuvent être personnelles, familiales, elles peuvent s'adresser à une église particulière ou à toutes les églises. Et le Saint-Esprit est là pour nous les révéler et nous les rappeler. Une des plus belles promesses données par Jésus est la promesse du Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vient faire sa demeure en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur avait promis et il l'a réalisé. Est-ce que vous connaissez la toute première promesse donnée à Israël juste après la sortie d'Égypte? Est-ce que vous savez? Juste après le passage de la mer Rouge. Allez, faites travailler au ménage. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? La première, toute première promesse. Bon, je vais vous le dire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Raphaël, Dieu guérit. Je parle des promesses après, au peuple, après la sortie d'Égypte, dans le désert. Première promesse, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pas magnifique? En s'appropriant les promesses, Pierre nous dit, on devient participant de la nature divine. On grandit dans la connaissance de Dieu. Chaque promesse reçue doit faire l'objet d'un témoignage. Vous serez mes témoins, c'est l'ordre de Jésus. Merci Pascal. Un témoignage rendu au Seigneur fait grandir la foi de celui qui témoigne et de celui qui l'entend ou le lit, ce témoignage. Les témoignages fortifient la foi. Et c'est très important de rendre gloire à Dieu, de le remercier en toutes circonstances. Et même avant de voir la promesse se réaliser, certaines promesses mettent parfois des années à se réaliser. Mais il faut toujours les garder et les repasser dans notre cœur, car Dieu, lui, il n'a pas oublié les promesses qu'il nous a faites. Il faut les garder en nous et les remercier, remercier le Seigneur. Vous verrez, le jour viendra où cette promesse se réalisera parfaitement. Cependant, nous avons quelque chose à faire. Ah, bon. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si je comprends bien, si la convoitise n'existait pas, la corruption n'existerait pas non plus. Il semblerait que la convoitise soit la base de tout. Et oui, tout est parti de là. Retour au jardin d'Éden. Le serpent vient de semer un doute dans la pensée d'Ève. C'est Ève qui parle. En fait, on n'est pas si bien que ça. Dieu nous brime, il nous infantilise. Oh, la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'il nous faut. Et alors, nous serons comme Dieu. Vous connaissez la suite. Depuis, la convoitise ronge l'humanité. La convoitise, elle commence tout doucement. Par une pensée à peine audible. Puis, si on y prête attention, elle grandit. Elle devient obsédante jusqu'à nous posséder entièrement. Alors, vous croyez qu'en cédant, vous allez trouver le bonheur? Mais non, vous avez trouvé l'enfer. La corruption, c'est se voir comme un petit dieu qui doit chercher à parvenir à l'épanouissement total. C'est l'amour de soi avec son cortège de cupidité, de vanité, de jalousie, de médisance, de commérage, de dispute, de conflit. Elle est partout dans tous les groupes humains, les nations, les couples, les familles. Et normalement, pas du tout dans l'Église. Ah oui, mais ça... Le sens biblique de corruption n'a pas le même sens que dans le monde. Dans le monde, la corruption, c'est des grosses magouilles pour frauder. Bon, ça, c'est la corruption. Mais dans la Bible, c'est pas ça. La Bible, c'est un autre sens. Il désigne tout ce qui est marqué par le péché et qui ne peut plus redevenir saint. Il faut tout recommencer avec un nouvel humain. Jésus est le nouvel Adam. Il est venu sans péché, sans corruption, pour nous donner sa sainteté et sa justice. Par sa mort sur la croix, il a crucifié notre vieille nature, on l'a lu tout à l'heure, pour nous en donner une autre, sa propre nature, sa nature divine. Corruption et nature divine sont complètement antinomiques. L'un exclut l'autre. Mais voilà la bonne nouvelle. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. On pourrait aussi dire ses convoitises. Alors, on va continuer un petit peu la lecture dans Pierre, reprendre où on s'était arrêté. De Pierre, et on continue au verset où on s'était arrêté. Pour cette même raison, pour toutes ces raisons que Pierre a exposées, et que j'ai un peu développé, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale ou la vertu, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, l'amour agapé. Pour l'apôtre Pierre, nous avons maintenant toutes les bonnes raisons de ne pas en rester là. Pierre n'aime pas les chrétiens qui font du surplace. Ah oui. Puisque nous avons reçu en partage la foi, une foi du même prix que la nôtre, précise Pierre, il va nous falloir faire des efforts. Là, c'est moins drôle. Pour joindre à notre foi la vertu, ou dit autrement, pour fournir à notre foi la vertu, et là on retrouve le même mot que pour la vertu de Dieu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'excellence morale, la probité, la droiture, le désir d'amener ce qu'on entreprend à la perfection. Votre foi va être boostée par la vertu que vous allez travailler, que vous allez rechercher. Alors j'ai une petite histoire personnelle. Tous les chrétiens peuvent la vivre. Mais elle m'a marquée, je m'en souviens toujours. Un jour, en sortant de la caisse au supermarché, je contrôle mon ticket, ce que je ne fais jamais d'habitude. Et je constate que la caissière n'a pas typé un article. Je pourrais partir. C'est la faute du magasin, ça ne me regarde pas, tant mieux pour moi, c'est toujours ça de gagner. Enfin, vous savez tout ce qui se passe dans la tête. Mais je choisis une autre voie et je retourne vers la caisse et je signale à la caissière son erreur. Elle me regarde complètement ébahie, sidérée, et me dit « Ben, personne ne fait ça, ne fait jamais ça. » Et je lui réponds du tac au tac, sans même réfléchir une seconde, « C'est pas pour vous que je le fais, c'est pour moi. » Et j'ai trouvé que c'était... Et j'ai dit « Mais c'est pour ça qu'on est juste, c'est pas pour les autres, c'est pour soi. » C'est pour garder cette probité, cette droiture, cette vertu que le Seigneur nous a donné et qu'on doit développer. Voilà, je vous en ferai ce que vous voudrez. La prochaine fois, vous aurez un doute quand vous allez voir qu'on s'est trompé en votre faveur. Joindre à votre foi la vertu, comme si la vertu allait booster la foi, puis à la vertu la connaissance, qui a ici le sens de compréhension. Je ne vais pas faire tout le reste, on le fera peut-être une autre fois. S'ensuit une liste de qualités humaines et spirituelles à joindre les unes aux autres, les unes après les autres, comme un collier avec des pierres précieuses de diverses natures pour finir en apothéose en joignant l'agapé, l'amour, dans son sens le plus pur et le plus absolu. Le but de toujours, de tous ces efforts, c'est toujours et encore la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quels sont les engagements demandés par le Seigneur ? 1. Grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ par l'intimité, le cœur à cœur, le temps passé dans l'adoration. Il faut faire des choix. On a tous 24 heures et on n'a jamais de temps. On a le temps pour ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, ce qui est le plus important pour nous, mis à part le travail, bien sûr, où on est contraint. Mais en dehors de ce temps, on est libre de son temps. Et le Seigneur nous demande du passé de temps de qualité avec lui dans l'adoration, la contemplation, le cœur à cœur. Pas avec sa liste de courses. La liste de courses, c'est après, à la fin. Grandir par l'étude de la parole en permettant au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous faire grandir dans l'obéissance. Fuir la corruption, discerner les convoitises et les rejeter, et adjoindre à notre foi la vertu et toutes les autres qualités. Et je vais vous lire la fin de Pierre, que pour finir, je vous lis le but final. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Grande générosité de notre Dieu, toujours et toujours. Amen.